des conseils et des astuces pour avoir la main verte sur notre territoire. Bienvenue dans Brin de Jardin, les chroniques d'un jardinier.
Brin de Jardin, les chroniques de Romain Jacquet Laforge. C'est tous les conseils et astuces à écouter sur Radio Royan Vercors pour avoir la main verte sur notre territoire. Donc, on est tout ouïe quant au conseil de Romain, qui j'adresse déjà un grand bonjour.
Bonjour.
Et puis également un gros morceau aujourd'hui, puisqu'effectivement, le mois de mai est synonyme d'un mois pour le moins, je sais pas si on peut dire fastidieux, mais en tout cas très dense pour le jardinier.
Exactement, parce que c'est le mois donc des saints de glace, des dernières saints de glace, donc le 11, 12, 13 mai. Et en règle générale, donc après avoir bien sûr sur le plateau comment ça se passe, mais en bas, on peut à peu près tout mettre bien sûr à cette époque en pleine terre, voilà, tout ce qui va être frileux. Faut toujours faire attention quand même, bien sûr, je me rappelle de quelques mois de mai là dernièrement qui ont été quand même assez humides et donc qui peuvent poser des problèmes au niveau des... Alors humides et des fois avec un petit peu de fraîcheur quand même. Et ça, c'est un cocktail qui est pas mal pour les maladies. Donc faire attention et des fois même peut-être, si c'est possible, alors notamment sur les tomates ou des choses comme ça qui peuvent être sensibles. Alors déjà, faire attention si on peut acheter des variétés qui sont un peu plus résistantes, hein, bêtement. On a tous l'habitude des variétés classiques, Montfavet, Marmande, enfin par exemple en tomates, hein, les cœurs de bœuf, enfin voilà, les Saint-Pierre. Enfin. Et des fois, vous avez quelques nouvelles variétés qui sont très très bien, alors par contre qui sont des hybrides. Hein, après, je peux entendre que les gens ne veulent pas mettre d'hybride parce que on peut pas après garder les semences pour les faire germer. On n'a plus la même chose qui va ressortir. On a la variabilité qui rentre en jeu. Mais vous avez vraiment des variétés qui peuvent être assez résistantes au mildiou, notamment sur la tomate. Et ça peut être une bonne façon un petit peu d'essayer d'échapper au traitement, à la bouillie bordelaise. Alors après, aussi bien sûr, on peut couvrir un petit peu donc ces tomates, hein, par des serres ou alors autrement des petites constructions un peu de plus faites maison, on va dire, et qui peuvent aider quand même à avoir moins d'humidité sur ses pieds. Faire attention d'ailleurs à arroser plutôt à cette époque le matin que le soir. Le soir, on va garder l'arrosage au soir quand il commence à faire très très chaud. Comme ça, si vous voulez, l'humidité reste pendant la nuit et le matin, ça sèche assez vite. Là, quand on est dans des périodes où il peut faire frais, où il peut y avoir beaucoup de rosée, de choses comme ça, il vaut mieux arroser le matin. Comme ça, après, le soleil va sortir et ça va sécher assez vite. Ça évitera quand même un petit peu des problèmes de maladie. Mais bon, il faut s'adapter et voilà. Et n'hésitez pas à demander si jamais vous avez des vieux voisins. Enfin, je parle de vieux voisins parce que souvent, les personnes âgées sont les personnes qui ont le plus l'habitude du potager. N'hésitez pas à prendre, ils ont tous quelque chose d'intéressant à vous dire et voilà, et c'est toujours très intéressant de partager avec les gens d'à côté. Donc, semis sous abri. Donc là, on peut attaquer vraiment pas mal de choses. Le basilic, tout ce qui va être cucurbitacé. Alors, cucurbitacé, les courges, les choses comme ça germe très très vite. C'est pas la peine de les faire trop tôt quand on veut les mettre en pleine terre directement. Donc, tout ce qui est par contre concombre, courge, les courgettes, les pâtissons, voilà, tout ça, les pastèques, les melons et les potirons, on peut y aller. Là, on va les semer en place ou éventuellement, enfin, si vous attendez mi-mai, on peut les semer en place. Sinon, si vous faites sous abri, vous pouvez y aller dès début mai et comme ça, après, vous pourrez les planter en pleine terre facilement, rapidement. En pleine terre, toute une liste, alors ça va pas être exhaustif, mais voilà, il y a énormément de choses qui peuvent se faire, donc les blettes, toujours, betteraves encore, bien sûr, les chicorées, tout ce qui est escarole, voilà, toutes les sortes de choux, pratiquement. Donc après, je vous disais, si on attend mi-mai, le concombre, tout ce qui est courge et donc cucurbitacée, bien sûr, le fenouil, les laitues, le maïs doux. Le maïs doux qui peut être un peu original à mettre. Et puis après, le maïs doux, on peut aussi planter d'autres choses éventuellement au pied. Je pense à des haricots, voilà, des choses comme ça qui vont bien avec, et des courges. Voilà. Tout ce qui est navet, les panais, le persil, les pissenlits. Les pissenlits, ça se trouve en graines, hein, ça se sème éventuellement. Tout ce qui est poireaux, les poirets, les pois, les potirons. Le pourpier, alors le pourpier donc qui est une plante assez intéressante par tout ce qu'elle apporte, mais qu'on retrouve en général dans le jardin, et c'est une mauvaise herbe, mais ça se mange aussi, effectivement. Tout ce qui est radis, roquettes, voilà. Donc ça, vous pouvez semer. Bien sûr, dans le commerce, vous allez trouver tout ce qui est plan déjà fait hein, à l'avance, donc les aubergines, je vais pas redire tout, mais les toutes les courgettes, toutes les cucurbitacées, voilà, classiques, tout ce qui va être tomates, les poivrons, les piments, voilà, tout ça. Éventuellement, des choses un peu originales, le coqueret du Pérou, voilà, qui est la physalis, on le retrouve des fois dans les, notamment en pâtisserie. C'est un petit fruit, un petit peu orange, qui est fait à peu près de la taille d'une tomate cerise, avec une enveloppe marron qui vient comme faire une cage autour. Voilà, alors ça c'est une plante qui donne des fruits assez sucrés en fin d'été. C'est une plante qui a besoin de beaucoup de chaleur pour arriver à maturité, donc à réserver peut-être en bas dans le Royan et pas trop sur le plateau. Mais voilà, une plante assez sympa. Et puis après, bien sûr, encore tous les choux, enfin voilà, toutes les choses classiques, hein, poireaux, ce que je vous disais juste avant. Un truc qui peut être sympa aussi à faire, bien sûr, c'est la patate douce. Une plante assez facile. Alors, peut-être pas obligatoirement en terrain très argileux, moi en terrain très argileux, ça marche bien. Mais c'est pas génial dans les terrains un peu plus secs, un peu plus alors sec, ça a besoin d'humidité, mais dans les terrains un peu plus sablonneux, un peu plus légers, ça marche très très bien la patate douce. Et là, voilà, mi-mai, vous pouvez y aller facilement. Si vous achetez des plants un peu plus tôt en saison et que vous avez un endroit pour les garder au chaud, vous pouvez aussi donc les bouturer. Donc acheter votre plant à l'avance, le laisser pousser, quitte à le rempoter dans un pot légèrement plus grand, le laisser pousser à la chaleur, et en fait on vient couper des sections de rameaux un petit peu longs, à peu près d'une dizaine de centimètres, on enlève les feuilles de la base, on les met dans un verre d'eau à raciner, ça racine très bien et assez rapidement, et après vous pouvez les replanter au jardin et vous aurez donc une démultiplication de votre plant, parce que le coût d'un plant est quand même un petit peu élevé sur la patate douce. Donc voilà, vous pouvez en acheter quelques-uns et puis après en multiplier et en donner même aux voisins si jamais. Vous pouvez aussi profiter éventuellement, parce que les tontes au printemps elles s'accumulent un peu, ça fait du poids, ça fait du volume, il faut les emmener à la déchetterie, c'est des fois un peu compliqué. Vous pouvez aussi éventuellement donc les utiliser pour pailler un petit peu vos plants de légumes, ou même d'ailleurs les haies ou des choses comme ça. Il faut pas en mettre des épaisseurs trop importantes, hein, 4-5 cm c'est bien, plus au-dessus ça peut aussi brûler, parce qu'en fait les jus qui vont sortir, en fait si c'est en trop grosse épaisseur, ça peut un peu brûler. Hein. C'est quelque chose d'assez agressif, en fait. Ça va amener de l'azote, hein, notamment, donc pour faire pousser le feuillage. Mais vous pouvez voilà, l'utiliser en 4-5 cm en paillage. Éventuellement, la faire sécher, d'ailleurs, avant de la réutiliser au jardin. Mais ça peut être un bon principe pour éviter d'emmener tout ça à la déchetterie. C'est pas toujours pratique dans les voitures et tout. Au niveau du verger, bien sûr, on va continuer à biner éventuellement les mauvaises herbes au pied des arbres, alors notamment les arbres qui viennent juste d'être plantés, hein, parce qu'il peut y avoir une petite concurrence au niveau du système racinaire, donc faut bien nettoyer un petit peu au pied. Puis ça permet aussi éventuellement donc de garder des cuvettes d'arrosage. Hein. Quand on plante un arbre, en général, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite cuvette, un peu comme un petit cratère, avec l'arbre au milieu, si vous voulez, tout simplement. Et donc, quand on arrose, ça permet vraiment d'humidifier les racines et pas que l'eau s'épande de partout et aille trop loin, en fait, pour votre arbre. Donc voilà. Commencez à arroser d'ailleurs hein, vos arbres si jamais ils sont jeunes. Pour tout ce qui est pommes et poires, en général les floraisons se font par bouquet. Donc sur une grappe de fleurs, vous avez en général 5 fleurs et donc ces 5 fleurs, si vous les laissez arriver à maturité, ça va vous donner des pommes de petit calibre. Souvent en plus vous allez avoir des pommes qui vont être donc très proches les unes des autres, donc après les maladies peuvent se passer plus facilement, moins de soleil aussi. Donc en fait, vous avez intérêt, si vous avez le temps et que vous avez la capacité, parce que des fois les arbres sont trop grands, mais c'est à venir donc sur un bouquet de 5 fleurs, en garder qu'une ou deux. C'est donc quand votre pomme est à peu près grosse comme une grosse bille, que vous allez pouvoir voilà, sélectionner celles qui sont bien formées, qui n'ont pas de taches et tout, et donc en laisser qu'une ou deux, ça vous permettra vraiment d'avoir des fruits meilleurs et plus gros. Alors par contre, bien sûr, ça sur les pruniers, les cerisiers, toutes ces choses-là, on ne fait pas hein, d'éclaircissage. Sur les cerisiers, par contre, vous allez bientôt avoir la mouche de la cerise qui va arriver, hein, puisque les premières cerises vont se ramasser à peu près vers fin mai. Donc à voir si vous voulez mettre des pièges à phéromones pour attraper en fait les mouches. Ça permet d'attraper qu'une partie des mouches. Hein. Sinon, vous avez un système qui marche bien, mais qui est contraignant à mettre en place, surtout que en fait c'est très compliqué, parce que sur les arbres qui deviennent un peu gros, les cerisiers, ça devient gros en général, ça va être de mettre un filet. Si vous mettez un filet, vous avez pas de problème, mais c'est le problème, c'est la contrainte technique de mettre le filet autour de votre arbre, des filets anti-insectes, hein, ça marche très très bien. Sur les groseilliers, notamment à macro, les choses comme ça, vous pouvez avoir un petit peu d'oïdium, c'est un feutrage blanc, hein, un petit peu comme sur les rosiers d'ailleurs, tout simplement, ou sur les hortensias. Donc un feutrage blanc sur le feuillage, vous pouvez traiter avec du soufre avant vraiment que ça arrive. Vous pouvez aussi avoir sur les groseilliers des fois des pucerons avec des feuilles qui sont un petit peu légèrement gaufrées, donc gaufrées un peu ondulées, on va dire, quelque part, avec des couleurs un peu bizarres, un peu verdâtres sur le dessus, et sur le dessous, en fait, ça vous donne une couleur un peu rose. Bon, ben ça, c'est souvent que ça va être du puceron, donc traité avec des produits très gentils, moi. Même peut-être du savon noir, des choses comme ça, hein, parce que c'est quand même sur des arbres fruitiers que vous allez manger, donc voilà. Au pied des arbres fruitiers, donc au pied des pommiers, je pense au carpocaps. Le carpocaps, c'est un papillon qui va venir pondre et qui va venir après, ça vous faire un ver qui va venir dans la pomme, et donc le ver de la pomme, bon, ben, c'est un peu embêtant. Donc ça, on peut mettre aussi des pièges, hein, pareil comme donc pour la mouche de la cerise, des pièges à phéromones. Il y a aussi, donc ça permet déjà d'attraper une partie des adultes. Vous pouvez aussi mettre un filet, mais toujours le même problème contraignant, enfin voilà. Et il y a une petite technique qui permet, alors qui vous sauvera pas toute votre production bien sûr, mais qui va permettre de limiter un peu les infestations, les réinfestations. Ça va être de mettre au niveau du tronc du carton ondulé à une certaine hauteur, hein, pour pas qu'il soit mouillé spécialement. Alors, il sera mouillé par la pluie, puisque au fur et à mesure de la saison, ça va se mouiller plusieurs fois, mais en fait, si vous voulez, ce ver donc se développe dans la pomme, et pour finir son cycle, il descend jusqu'au sol, et après, donc, il se nymphose, donc il se transforme en adulte, et après, il repartira voler. Mais si vous mettez du carton ondulé, des fois, alors sans trop serrer, bien sûr, pour pas que ça ait, avec un fil de fer, pour pas que ça attrape votre arbre, et donc voilà, que ça le serre trop, mais en mettant un lien éventuellement souple en plastique ou un truc comme ça, en fait, il va venir, il va s'arrêter dans ce carton ondulé, et à l'automne, ce que vous faites, c'est que vous enlevez le carton ondulé, vous le brûlez. Et comme ça, voilà, vous brûlez une partie des larves qui allaient se transformer. Alors bien sûr, on va pouvoir aussi éclaircir les pêches quand même un petit peu, hein, les pêches aussi pareil, éventuellement enlever un petit peu, et puis commencer à faire tout ce qui est purin, hein, l'ortie, la consoude, la prêle. Il faut un petit peu de temps pour pouvoir donc passer ces pulvérisations. Donc commencer maintenant. Hein. Il faut le faire avant que, par exemple pour les orties, avant qu'ils soient en fleurs. Hein, donc c'est le moment de ramasser vos orties. Et puis la vigne, alors bien sûr, traiter contre le mildiou et l'oïdium. En général, donc l'oïdium, je vous en parlais juste avant, bah, c'est avec du soufre. Le mildiou, ça peut être un traitement à base de bouillie bordelaise. Après, c'est pareil, hein, on ne traite que si on a besoin. Ça va dépendre des conditions météo aussi, bien sûr. On ne surdose jamais. Et une année où il fait sec, on a beaucoup moins besoin de traiter qu'une année où il fait humide. Et donc, suivant aussi, bien sûr, la résistance des variétés aux maladies. Prenez toujours ça en compte. Vous ne dites pas, je vais traiter systématiquement. On ne traite pas systématiquement. Il vaut mieux traiter des fois, surtout pour les maladies, avant le problème, je l'entends bien, mais se dire je vais faire 10 traitements par an parce que mon grand-père faisait comme ça, voilà, s'il n'y a pas de maladie, ça ne sert à rien de traiter, ne traitez pas, quoi. Voilà, tout simplement.
Bien, merci pour ces conseils tout à fait judicieux autour du jardin. On rappelle à nos auditrices, auditeurs, que nous pouvons retrouver, réécouter cette chronique sur notre site radioroyant.fr, Brin de Jardin. Tous les conseils et astuces de Romain pour avoir la main verte sur notre territoire. Eh bien, rendez-vous pour une prochaine émission autour bien de ce premier semestre. On parle de mai, puis après ça continuera encore le jardin avec toutes ces plantations, notamment pour le mois de juin. À bientôt, merci Romain.
À bientôt.
Et pour bénéficier des conseils de Romain, n'hésitez pas, chères auditrices et chers auditeurs, à lui envoyer vos questions écrites par mail à brindejardin@gmail.com, brin au pluriel. À très bientôt.